Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours avec nos invités. Nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons M. Kinanga Musachi, qui est journaliste et reporter et monteur d'images à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC. Bonjour Kinanga Musachi.
Bonjour M. Guy.
Madame Hortense Kavou Omaliro, elle est membre de la société civile du Nord Kivu, elle est représentante de l'association pour l'intégration sociale des personnes vivant avec handicap physique AIHP en sigle. Elle est également promotrice de l'école We Are The World School. Bonjour Madame Hortense Kavou Omaliro.
Bonjour Monsieur Guillaume.
Et en ligne depuis Nairobi, capitale du Kenya, Ruben Lukumbuka, journaliste à la radio France Internationale Kiswahili à Nairobi. Bonjour Ruben Lukumbuka.
Bonjour Guy Maté, bonjour à tous les co-débatteurs et tous les auditeurs de Radio Okapi.
Merci et à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Kinanga Musachi. Il est avec nous ici au studio. Il est journaliste et reporter et monteur d'images à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC. Madame Hortense Kavou Omaliro, membre de la société civile du Nord Kivu, elle est représentante de l'association pour l'intégration sociale des personnes vivant avec handicap physique AIHP en sigle. Elle est également promotrice de l'école We Are The World School. Et en ligne depuis Nairobi, capitale du Kenya, Ruben Lukumbuka, journaliste à la radio France Internationale Kiswahili à Nairobi. Au menu de cette émission, clôture à Kinshasa de la table ronde sur l'état des sièges, publication de la liste provisoire des candidatures pour les législatives nationales dont 17% seulement sont féminines et analyse des points de vue des hommes de l'Église sur les bilans de la gouvernance de l'Est de la RDC. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire sur ces rapports de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, NICED en sigle. En effet, l'Afrique a le potentiel pour développer des chaînes d'approvisionnement mondiales dans le domaine des technologies. C'est ce qu'affirme la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, NICED en sigle, dans un rapport paru le 16 août 2023. Plusieurs domaines sont concernés selon la CNUSED, l'automobile, les énergies renouvelables, la santé ou bien la téléphonie. Ainsi, alors que les marchés des télécoms se développent de manière très importante sur le continent depuis plus de 20 ans, l'Afrique ne doit pas rester un simple exportateur des matières premières nécessaires à la fabrication des téléphones portables, estime cet organe de l'Assemblée générale de l'ONU. La CNUSED explique que la République démocratique du Congo, notamment grâce à son cobalt, son nickel ou son manganèse, pourrait développer une chaîne d'approvisionnement régionale aidée par ses voisins et la mise en place d'une zone de libre-échange continentale. L'ONU assure même qu'une usine de composants électroniques en RDC coûterait 3 fois moins cher qu'aux États-Unis. Mais pour cela, beaucoup reste évidemment à faire. Les rapports préconisent, par exemple, l'adoption des lois qui garantissent des conditions de travail décentes, la mise en place des formations et des investissements dans des centres de recherche. Kinanga Moussachi, comment vous réagissez à ces rapports de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED, qui estime que l'Afrique peut renforcer sa position dans les chaînes d'approvisionnement mondiales?
En fait, les potentialités de la République démocratique du Congo, un pays de 2,345 000 km² et qui a 80 millions de terres arables, et des ressources minières les plus importantes qu'on connaisse à travers le monde, eh bien, tout est permis pour que l'on puisse rêver grand en République démocratique du Congo. Mais le paradoxe est que nous soyons à la traîne et que considérés comme un des pays les plus pauvres, les populations sont clochardisées et la population qui devrait être le moteur pour conduire le développement de ces potentialités, on sent que l'aspect éducation, instruction de ces jeunes qui devraient prendre en fait les rênes du développement du pays est négligé. C'est l'inquiétude qui est la mienne. Qu'est-ce que nous faisons en tant que responsables, aussi bien des médias, politiques et décideurs, pour que cette jeunesse, on lui donne la chance, effectivement, de faire valoir ses capacités à travers le monde pour que la RDC puisse compétir à armes égales avec les autres.
Donc, ces rapports de la CNUSED peuvent être considérés comme une sorte d'interpellation?
C'est une grande interpellation qui n'est pas d'aujourd'hui. Déjà à l'époque de Mobutu, dans les différents plans qu'on montait pour pouvoir donner un cap à la République démocratique du Congo, nous voyons grand. Et on a essayé de faire grand. Mais aujourd'hui, nous avons baissé le rythme de nos ambitions. Je me demande pourquoi.
Merci, Madame Hortense Kavou-Maliro. L'Afrique ne doit pas rester un simple exportateur des matières premières nécessaires à la fabrication des téléphones portables. On sait que beaucoup de pays africains partagent ces points de vue, n'est-ce pas, de la CNUSED et même les nôtres, la RDC. Mais qu'est-ce qui pourrait bloquer les pays africains à pouvoir mettre en place, n'est-ce pas, une sorte de chaîne de valeurs pouvant les aider à ne pas exporter leurs ressources à l'état brut?
Oui, moi je pense que c'est seulement la volonté. Si la volonté politique est là, il n'y a rien qui peut bloquer à ce que nous puissions faire le centre d'approvisionnement au pays. Et je pense que c'est le fait aussi a compris que la potentialité que regorge la RDC est capable de faire tout au pays, et ils sont allés très loin pour dire que c'est moins coûteux au pays que l'extérieur. Je ne comprends pas aussi comment est-ce que si on peut voir cet effet des choses pendant 100 ans, 200 ans après, quel sera le jugement? Est-ce qu'on en aura toujours? Donc c'est maintenant que nous devons avoir cette volonté d'agir, parce que c'est fou de voir que nous donnons nos richesses, nous donnons les minerais en brut, et après ça va nous revenir en matière finie, et nous payer encore plus. Vous comprenez que ça ne nous avantage pas. Ça nous avantagerait si on arrivait à produire nos produits bruts, nous puissions les transformer au pays, et puis nous pouvons exporter les produits finis, c'est-à-dire, si je parle à terme de téléphonie, les téléphones mobiles. On prend nos coltans ici, tout ce qui est lié au téléphone et tout. Mais après, ces téléphones nous reviennent en produits finis, nous les achetons à plus cher. Vous voyez que ce n'est pas du tout normal. Les cobalt, ils savent que nous sommes parmi les pays avec un grand gisement en cobalt du monde. Et avec les véhicules électroniques, tout ça, c'est-à-dire qu'ils ont intérêt à privilégier le Congo et nous, en tant que patriotes, nous devons stimuler la volonté politique à agir. On ne doit pas dépendre des voisins, parce que là, on dit que non, il faudrait laisser les voisins venir nous aider. Mais nous sommes capables de faire des choses nous-mêmes. Mais c'est seulement la volonté qui manque. Mon impression, je pense qu'on doit arriver à bénéficier et à hériter de tout ce gisement que les Bourdieu a donné à notre possession et avoir la possibilité de les gérer de façon rationnelle.
Merci. Voilà. Merci Ruben Lukumbuka. Ces rapports de la CNUSED préconisent notamment l'adoption des lois qui garantissent des conditions de travail décentes, la mise en place des formations et des investissements dans des centres de recherche. Ces conditions, les pays africains sont-ils prêts à les mettre en place? On voit comment nous, dans notre pays, nous peinons, n'est-ce pas, à assainir notre climat des affaires.
Exactement. Donc, lorsqu'on dit que, disons, selon ces rapports qui préconisent, par exemple, l'adoption des lois qui garantissent les conditions de travail décentes, moi, je pense que ce genre de rapports, ça va, c'est mieux, c'est bon, c'est, disons, sur les fonds, on sent qu'il y a une certaine hypocrisie, parce que lorsque j'ai lu ces rapports, par rapport à cet article, disons, il y a un paragraphe où on dit l'Afrique ne doit pas rester un simple exportateur des matières premières nécessaires à la fabrication des téléphones portables. Là, j'imagine, lorsqu'on parle de la RDC, qui notamment grâce à son cobalt, son nickel ou son manganèse, avec toutes ses potentialités, on doit arriver à garantir des conditions de travail décentes pour... disons, les populations qui doivent être d'ailleurs les premières bénéficiaires. Moi, je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie de la part de multinationales et de la part même de preneurs de décisions sur le plan international, parce qu'ils savent très bien que la RDC, c'est un pays très riche, qui malheureusement, sa population est pauvre, un pays dont les potentialités devraient profiter à sa population. Et malheureusement, aujourd'hui, on sent que ces mêmes multinationales, ces mêmes personnalités ou même ceux-là qui élaborent ce genre de rapports, ils essaient un peu d'exhiber qu'il y a quand même un moyen de faire profiter à ces populations qui sont martyrisées par les guerres. C'est bon, tout ça, ça a l'air bon, ça sent que vraiment il y a seulement le manque de volonté, comme a dit Mme Hortense Kabour-Maliro, mais aussi j'ajoute qu'il y a un certain manque plutôt de leadership, parce que si on avait un leadership vraiment très solide, garantir des conditions de travail décentes pour sa population, et la mise en place des formations et des investissements dans des centres de recherche, ça aurait été chose facile. Malheureusement, qui va les faire? Donc, on doit essayer de toucher à la conscience de nos leaders ou de nos dirigeants, de faire profiter à la population ces potentialités que le pays regorge. Et non pas rester seulement dans des rapports, mais sans rien faire, vous voyez? Donc, on doit aider aussi le pays à pouvoir profiter de ces potentialités qu'il a.
Merci. Merci. On prend une petite pause avec Congo Avenir de Rogero Taoulay et on revient tout de suite après.
Congo, Congo Ndemboka, Mbokango Mokengeli Koi, Mbokango Mokengeli Léopard. Kolo to sekala kina mosolo ya mboka Kongo ekoki to fungwani misolelo to moni bozo banyo soso sali boya kobongisa Kongo aveni ebongi to sala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Mikolo to sekala kina mosolo ya mboka Kongo ekoki tokungwani misolelo Moni bozo banyo soto sali Boya kobongisa Kongo aveni ebongito sala ebongito sala motonyo sata mwana kungo ya mosolo mpembe ya nzoku kungo ya bwanya nkasa ya mbila kungo ya makasi moto ya mkoi kungo kungo ne mboka kungo mboka ya bankoko Kongo, boko mwana pamba, lobi, boko lula yango. Kongo, Kongo ya Afrika, Kongo, boka ya kitoko. Kongo, ya batu mayele, Kongo.
Congo Avenir, cette composition du seigneur Rofiero Taboulay qui nous a quittés il y a de cela quelques années, paix à son âme. On revient à l'actualité de cette semaine, la table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges s'est clôturée mercredi dernier au Palais du Peuple à Kinshasa dans une ambiance mouvementée. Dans son discours à cette occasion, le Premier ministre représentant les chefs de l'État s'est félicité des différentes propositions issues des différentes commissions pour éclairer la lanterne de Félix-Antoine Tshisekedi. Celui-ci va lever l'option soit du maintien de la levée ou de la requalification de l'état des sièges. Par ailleurs, juste après la clôture, on a pu observer dans la salle les deux tendances qui se sont dégagées. La première est celle de quelques personnes qui ont brandi des papiers sur lesquels on pouvait lire « maintien ». Cependant, une clameur exigeant la prononciation immédiate de la levée s'est fait entendre dans la salle juste après le discours du Premier ministre. Ruben Lukumbuka, vous êtes journaliste à la radio France Internationale Kiswahili à Nairobi. Et vous avez opté pour ces sujets. Pourquoi avez-vous souhaité nous parler de cette table ronde sur l'état des sièges dans le Nord Kivu et l'Ituri?
En fait, Guy Maté, nous avons suivi comment se sont déroulés les travaux en commission et comment les commissions pour le maintien et pour la levée de l'état de siège ont rivalisé d'argumentaires, chacun pour son camp. Alors j'ai personnellement été intéressé de voir la commission qui était pour le maintien de l'état de siège, qui a parlé des souffrances de la population, et celle qui était pour la levée a évoqué des menaces des groupes armés, hein, les tueries, des exactions contre la population et tout. Et seule la commission pour la requalification, que je peux dire ici, de l'état de siège n'a pas trouvé nécessaire d'argumenter. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? Dans mes analyses, c'est pas pourquoi il fallait organiser cette table ronde pour évaluer l'état des sièges. D'autant plus que, en les rendant publics, c'était en mai 2021, le président lui-même avait dit que il a bien précisé qu'il a activé les dispositifs constitutionnels avec l'engagement et la détermination d'endiguer des menaces graves et de sécurité pour sécuriser plutôt les populations et leurs biens dans le seul but de rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais du coup, lorsque j'ai vu comment la salle a été, plus mouvementée, je me suis dit, il y a Angouille et Souroche, pourquoi est-ce qu'il y a cette situation? Voilà pourquoi j'étais plus intéressé à vouloir savoir qu'est-ce qui cache cet état de siège, qu'est-ce qui cache la situation dans l'est du pays, pourquoi il y a eu plusieurs prorogations de la part des députés nationaux. Voilà un peu plusieurs questions de ce genre qui m'ont poussé à vouloir savoir est-ce que le président, après avoir, je dirais, scruté toutes les propositions données, va-t-il lever ou va-t-il maintenir cet état de siège dans l'est de la République démocratique du Congo pendant qu'il y a encore plus d'insécurité dans la région. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau.
Ruben Lukumbuka, vous n'êtes pas le porte-parole du président Félix Tshisekedi, mais à votre avis, qu'est-ce qui peut l'avoir motivé en initiant cette table ronde? Est-ce que ça peut être ces demandes incessantes, n'est-ce pas, d'une certaine opinion qui pensait que cette mesure n'était pas susceptible de ramener la paix dans la partie est du pays? Ou c'est plutôt les contextes électoraux dans lesquels on est, hein, parce qu'il faut se rappeler que nous sommes dans un contexte électoral et que, logiquement, on aura besoin de permettre aux différents candidats de pouvoir battre campagne, on aura besoin, n'est-ce pas, de laisser ces candidats s'émouvoir, participer même à des débats politiques, ce qui serait presque impossible dans un état de siège. Qu'est-ce qui peut avoir poussé les chefs d'État à initier cette table ronde?
En fait, l'initiative était bonne, suivant l'intention de vouloir endiguer l'insécurité dans l'est du pays, selon ce que nous l'avions appris. Malheureusement, au lieu d'arriver à cet objectif qui était d'endiguer l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, ce qu'on a senti, c'était autre chose. Par exemple, disons, il y a eu plusieurs cas de tuerie, on a senti que l'insécurité a bâti son plan dans la partie est du pays et surtout dans ces deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Mais en répondant sur votre question, est-ce que c'est cette table ronde qui est venue dans le contexte des élections, est-ce que c'est dans ce sens-là ou comment? À mon avis, je ne sais pas dire que c'est dans ce sens-là, disons dans le contexte des élections, mais à ce que je sache, c'est que l'initiative était bonne. Malheureusement, les fruits ou les résultats qu'on a sur le terrain ne sont pas du tout bons. Alors, est-ce que c'est vrai que le gouvernement ou alors les dirigeants militaires ont failli à leur mission? Est-ce qu'il y a la sécurité dans l'est du pays? On est là comme observateur, on est en train de voir est-ce que lever l'état de siège va amener la paix. C'est ce que chacun souhaiterait. Attendons voir, comme disent les Anglais, wait and see, ce que cela va produire. Et en attendant, disons, la décision que le président prendra.
Merci, Madame Hortense Kavo Maliro. Vous êtes membre de la société civile du Nord Kivu. Vous êtes représentante de l'Association pour l'intégration sociale des personnes vivant avec handicap physique AHP en sigle. Vous êtes également promotrice de l'école We Are the World School. Alors que l'état de siège avait suscité beaucoup d'espoir lorsqu'il avait été, n'est-ce pas, décrété, Ruben Lukumbuka nous l'a rappelé. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer que cette mesure n'ait pas atteint l'objectif ultime, celui de neutraliser les groupes armés afin de sécuriser les populations?
Ah oui, toutes les personnes, tous les Congolais, tous les habitants de l'Est, ils attendent que les résultats, ils attendent que la sécurité et le rétablissement de la paix. Moi, je suis du genre de femme qui voit les choses partant des résultats. Vous avez planifié quelque chose, vous avez dit, voilà, aujourd'hui, je vais atteindre tel objectif et pour atteindre tel résultat, et ça n'a pas abouti. Moi, je dirais que ça n'a pas abouti parce que peut-être, tu sais, on ne peut pas être juge et parti à la fois. Je sais que la FARDC fait beaucoup. La FARDC fait son travail régalien, c'est-à-dire que même au début, quand ils ont lancé ça, j'étais dans mon bureau, là, je dis non. J'ai dit, mes collègues qui étaient là, j'ai dit non, ça ce n'est pas une bonne décision. Parce que quand vous faites un état de siège, c'est une décision ultime. C'est-à-dire, ça doit jouer les rôles directs. C'est-à-dire, on ne doit pas avoir long terme. Quand on prend une décision d'état de siège, c'est-à-dire, ça doit être en court terme. Déjà, on est 2 ans et on est entré dans le long terme. C'est-à-dire que ça n'a pas porté les fruits, c'est urgent. Il faut les lever. Quand ça n'apporte pas de fruits, il faut directement changer les stratégies. Et je suis du genre de femme qui appuierait que le, son excellence Antoine Félix Tshisekedi, qu'il levait ça et qu'il trouve le plan B. Trouve une autre manière de faire, mais moi, je reste toujours sur mes mots, qu'on laisse les institutions travailler comme elles se doivent. Donc, séparation du pouvoir. Donc, il ne faut pas que l'armée s'immisce dans la politique, dans l'administration, dans quoi, qu'il laisse l'armée faire son travail. Et toute la population sera toujours derrière l'armée, parce que la paix, c'est l'apanage de tout le monde. La paix nécessite l'implication de tout le monde. Donc, nous serons toujours derrière la farbité et que les institutions puissent travailler normalement. Voilà.
Merci, Kinanga Moussachi, journaliste et reporter et monteur d'images à la Radio-Télévision Nationale Congolaise et RTNC. Selon le porte-parole de FRDC, le général Sylvain Ekenge, les acquis de l'état de siège sont la reddition des groupes armés, la neutralisation des EDF et les réseaux des ravitailleurs, et la réouverture de certains axes routiers. Si effectivement c'est ça, n'est-ce pas, que nous avons pu obtenir comme résultat du fait de cet état de siège, comment, à votre avis, on peut se regarder ces acquis?
Mais si acquis il y a, moi je me pose plutôt la question de savoir, depuis qu'il y a l'état de siège, moi je ne remonterai même pas à l'état de siège. Moi je considère la turbulence dans laquelle cette partie de l'Est se trouve depuis le déclenchement des guerres, qu'on appelle guerre de l'Est. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait diriger? Et qui répond de quoi devant qui? Quelle est la finalité de l'homme sous la responsabilité des autorités politiques, civiles, militaires, religieuses, de la police, avec le pouvoir judiciaire inclus, si on déplore jusqu'à ce jour une sorte d'abandon du peuple, dont pourtant tous les leaders se réclament? Il y a comme, à mon avis, un sentiment que l'être congolais, l'être humain congolais, dans son destin, est presque abandonné à lui-même, suivant la persistance de la violence, puisque les auteurs des actes criminels restent pour la plupart impunis et certains notoirement identifiés prospèrent dans la société et affichent une présence dans la société, une présence ostentatoire, dont le luxe fait poser à la jeunesse la question. Mais que faire pour que dans notre vécu, dans notre République démocratique du Congo, on considère qu'on a réussi? Est-ce que c'est assez pavanant sur base de ce qui a été obtenu de façon qu'on connaît, pillage ou bien meurtre? Est-ce que c'est cela réussir? Vraiment, c'est...
Donc pour vous, il n'y a pas eu de résultats qui ont été obtenus du fait de cet état de siège.
Mais est-ce que la guerre est terminée à l'Est? Et c'est une des questions que a posé en fait le cardinal Ambongo. Hein? Puisque les hostilités ou bien les violences à l'Est du pays, comme mon sujet que je vous avais proposé, c'était de voir quel est le discours des religieux par rapport à ce qui se passe. Or, à chaque événement important des institutions religieuses dans notre pays, leurs animateurs ne manquent pas d'associer les responsables politiques, en commençant par l'institution présidente de la République. Puisqu'en fait, je pense qu'ils réalisent qu'ils sont chargés en tant que pasteurs des églises des missions similaires que celles du pouvoir séculier pour encadrer les masses sous leurs responsabilités, afin de les conduire vers un avenir à Dieu suivant les aspirations de chaque être humain. Alors, on en est où aujourd'hui? Moi, j'étais là lorsque Monseigneur Sikouli a été sacré. C'était le 2 août 1998. Et c'était le début du déclenchement de cette guerre que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Alors, me dire qu'on a gagné... On a gagné quoi?
Merci. Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Nous allons écouter cette nouveauté de Diamond Platnumz et Koffi Olomide. Et on revient juste après.
Le général d'amour. le corps noir. Maman Dangote.
On n'a pas calé, on m'a dit que c'est parti. Elle n'est pas calé, c'est pas qui gâte et gâte.
Ils y sont tous.
Rafiki, 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 Wakorina. Rafiki, Rafiki, Induku, Amadirani. On n'est pas qui n'est pas carré, Wakuliana, Wesibani. Wakuko, Kapongene, Amayule, Wanipenan.
La présidente Maman Samia.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi, à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre dans quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur les rapports de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement NUCED en cible qui estime que l'Afrique peut renforcer sa position dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Nous avons également analysé la question de la table ronde sur l'état de siège. Participe à cette émission, Kinanga Moussachi, le journaliste et reporter monteur d'images à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC. Madame Hortense Kavuo-Maliro, membre de la société civile du Nord Kivu, elle est représentante de l'Association pour l'intégration sociale des personnes vivant avec un handicap physique AHP en SIG. Elle est également promotrice de l'école We Are the World School. Et en ligne depuis Nairobi, capitale du Kenya, Riben Lukumbuka, journaliste à la Radio France Internationale Kiswahili à Nairobi. La Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle a publié vendredi 11 août dernier la liste provisoire des candidatures pour les législatives nationales. Environ 24 000 candidats ont été retenus pour 500 sièges sur les 28 791 candidatures reçues par les bureaux de réception et de traitement des candidatures BRTC en sigle. Dans un communiqué parvenu dimanche 13 août à Radio Okapi, le Centre de recherche et d'études sur l'état des droits en Afrique, CREDA, en sigle, constate avec indignation que sur les 24 000 candidatures déclarées recevables par la CENI, seules 3 955, soit 17%, sont féminines. Madame Hortense Kavuo-Maliro, vous avez souhaité aborder cette question liée, n'est-ce pas, à la publication des listes provisoires des candidatures pour la députation nationale. On vous écoute.
Oui, bon, je peux dire que c'est pas le Trinidad qui est seulement indigné, mais moi aussi je suis indigné parce que la loi numéro 15/013 du 1er août 2015 portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité, cette loi, qui est d'application de l'article 14 de la Constitution, elle vient renforcer l'engagement de l'État congolais à bâtir une société plus juste où les comportements, les aspirations et les différents besoins de l'homme et de la femme sont pris en compte. C'est-à-dire que le but de cette loi, c'est pour la promotion de l'équité du genre et de l'égalité des droits, des chances et des sexes dans toute la vie nationale, notamment la participation équitable de la femme et de l'homme dans la gestion des affaires de l'État. Bien sûr, je peux dire que la loi électorale a fait des innovations parce que cette loi numéro 15/013, ça nous renvoie à la loi électorale. Parce qu'à cet article 5, elle stipule que les partis politiques tiennent compte de la parité homme-femme lors de l'établissement des listes électorales dans les conditions prévues par la loi électorale. Vous comprenez avec moi que je ne refuse pas qu'il y ait des innovations dans la loi électorale, parce qu'à son point 2, on dit que la prise en compte de la dimension genre dans la constitution des listes conformément à l'article 14 de la Constitution. Donc, à mon avis, à l'article 13, la loi électorale a bien défini que si une liste comporterait 50% minimum de femmes, cette liste sera exemptée des cautions. C'est-à-dire, la loi électorale a touché plus de cautionnement que d'autres aspects. Vous voyez, avec les 17%, c'est-à-dire que l'innovation que la loi électorale a apportée envers les femmes n'a pas été effective. C'est-à-dire qu'il faudrait que la loi électorale puisse aller plus loin avec des articles très contraignants. Par exemple, d'ailleurs, moi, j'ai été vraiment déçu de voir quelques partis politiques ou règlements politiques qui mettaient sur la liste une liste où il n'y avait pas de femmes. C'est-à-dire que la loi électorale devrait aller plus loin. Par exemple, que la liste qui manquerait une femme ne sera pas recevable. Et là, ça va aider à ce que l'égalité de chance soit effective. Vous comprenez que le développement inclusif nécessite la participation des hommes et la participation des femmes. Et cette loi ne devrait pas être compromise par les partis politiques ou les regroupements politiques. Ils devraient aligner les femmes et ils devraient aussi aligner les personnes handicapées. C'est ça la beauté de l'inclusion sociale. Parce qu'on ne va pas voir comment la nation doit être gérée par les hommes. D'office, on voit que la nation est amputée d'une grande partie de femmes. Donc, à ce niveau, les partis politiques et les gouvernements politiques n'ont pas encore confiance aux femmes. Pendant que les femmes sont vraiment militantes, hein. Il ne faut pas penser que les femmes, nous sommes là juste pour accompagner les hommes. Aujourd'hui, la femme a compris la donne. La femme a compris qu'elle doit participer de la même manière que l'homme.
Madame Hortense, vous pensez que la femme, oui, a compris la donne, la femme s'est réveillée. On rappelle que vous êtes candidate vous-même, hein, pas à la députation nationale, mais plutôt candidate potentielle à la magistrature suprême. La femme s'est réveillée, mais on constate ce faible engouement des femmes à ces niveaux d'élection. Qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger les choses? Vous proposez qu'on puisse insérer, n'est-ce pas, dans la loi électorale certaines dispositions contraignantes qui obligeraient, n'est-ce pas, les partis politiques à pouvoir aligner les femmes sur les listes. À part ces dispositions contraignantes, qu'est-ce qu'il faut encore corriger pour, n'est-ce pas, amener la femme à pouvoir être représentée à tous les niveaux des élections dans ces pays?
Oui, je veux tellement encourager les femmes parce que la femme doit comprendre qu'elle doit faire partie prenante de toutes les institutions du pays. Parce que si on veut un changement, le changement viendra de cette contribution-là que la femme aura apportée auprès des hommes, c'est-à-dire 50-50. Donc, moi, mon avis, ce que je dois dire, je dois encourager les femmes, je dois demander aux femmes de s'imposer. Parce que c'est vrai, les hommes n'ont pas encore compris que nous sommes majoritaires, c'est-à-dire les femmes. Impliquez-vous dans tous les processus. Oui, je suis potentielle candidate à la magistrature suprême parce que je suis capable de rayonner ce que nous attendons du pays.
Je pense que ce n'est pas encore le moment de faire la campagne, mais je sais que je pourrais apporter les changements, je pourrais apporter l'amélioration des conditions de la population. Donc, merci. À mon avis, les femmes, nous devons nous faire confiance mutuellement.
Merci.
Nous devons nous soutenir mutuellement. Voilà.
Merci. Ruben Lukumbuka, au vu de ces résultats, on sent qu'on est encore loin d'atteindre cet idéal de la parité homme-femme dans les institutions politiques de la RDC. Ruben? Allô, Ruben? Apparemment, il n'est pas là. Kinanga Musashi, on a l'impression qu'on est encore loin.
Non. C'est pas qu'on est loin. C'est un combat juste et loyal. Mais j'ai l'impression qu'il y a une part aussi qui semble être exclue des discussions. Il n'y a pas que la femme qui soit exclue. Il y a par exemple la personne avec handicap. Il faut tenir compte d'elle. Alors, moi, par rapport aux chiffres que vous venez de donner, après la publication des listes, la question que l'on doit se poser, est-ce pour servir la nation qu'il y a engouement, ou tout simplement parce que la société est en train de fonctionner d'une façon déséquilibrée. Vous avez suivi dans les réseaux la publication de ce qu'on appelle émolument des personnalités politiques. Mais est-ce que les chiffres qu'on avance par rapport au vécu d'autres citoyens qui contribuent au développement du pays de par les fonctions qu'ils exercent dans différents domaines, est-ce que les gens qui aspirent à venir diriger, est-ce que c'est par amour pour le pays ou bien tout simplement par goût de ceux qui vont gagner? Est-ce que là aussi on doit se poser l'interrogation. Mais ce que je voulais dire à notre sœur Yaru, c'est que la CENI normalement offre des cadres de concertation. Et ces cadres de concertation avec les différents partenaires sont censés être des cadres de formation pour qu'on s'imprègne exactement des missions qui sont attendues de ceux qui veulent venir représenter le peuple. Est-ce que les gens ont exploité suffisamment ces cadres de formation pour qu'effectivement, lorsqu'ils se retrouvent... Et ces cadres de concertation ne concernaient pas que les partenaires, parce que même l'électeur est partenaire. Alors, il faudrait que les gens sachent effectivement élire la personne qui est utile pour la société et que la personne qui est déléguée pour représenter, pour défendre les intérêts du peuple, puisse aller dans la même direction pour que le pays puisse avancer. Alors, pour moi, je me dis, on n'est pas encore aux élections, qu'on se pose la question, effectivement, quelle est la motivation des uns et des autres? La motivation des électeurs, qu'ils soient femmes ou hommes, la motivation de ceux qui attendent que le pays soit bien dirigé, et la place de toute personne, handicapée soit-elle.
Merci, Ruben Lukumbuka, vous êtes là? Allô, Ruben Lukumbuka, est-ce que vous êtes là? Voilà, on va essayer de les rappeler. Et on en profite pour prendre une petite pause. Hein, comme une des réalités de notre démocratie, c'est son caractère multipartite. On prend une petite pause en écoutant Multipartisme d'Alpha Blondy. On revient juste après.
Tais-toi, pété. Crivez comment, tais-toi, pas ok. professeurs sont fâchés. Leurs voix syndicaux bafoués. Les étudiants sont fâchés. Ils veulent plus de liberté. Papier Longuerre des mourdis. Parce qu'ils ont été cognés. Les médecins sont fâchés. Parce qu'ils sont mal payés. Les ouvriers sont fâchés. Parce qu'ils ont été compressés. Le gouvernement est fâché. Les caisses et les cabinets.
C'était Multipartisme d'Alpha Blondie, chanson sortie au début de la décennie 90, à l'époque où la démocratisation était en train de s'installer en Afrique. Je rappelle que nous avons dans cette émission M. Kinanga Moussachi qui est ici au studio. Il est journaliste, reporter et monteur d'images à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC. Madame Hortense Kavou Maliro, membre de la société civile du Nord Kivu et les représentantes de l'association pour l'intégration sociale des personnes vivant avec handicap physique AHP en sigle. Elle est également promotrice de l'école We Are The World School. Et en ligne depuis Nairobi, capitale du Kenya, Ruben Lukumbuka, journaliste à la radio France Internationale Kiswahili à Nairobi. Au cours de la célébration de la messe de ses 25 ans d'épiscopat, vendredi 11 août, l'évêque du diocèse de Butembo Beni, Mgr Melchisedek Sikuli Paluku, a déclaré que le rêve d'une paix durable dans l'est de la RDC finirait par se réaliser en dépit du temps que ça prendra. Devant des milliers de fidèles et des personnalités du pays comme de l'étranger, Mgr Melchisedek Sikuli Paluku a exhorté tout le monde à travailler sans relâche pour la paix. Votre présence constitue pour moi un signal fort de solidarité. Vos messages de réconfort et de compassion me rassurent que tôt ou tard, la paix sera une réalité à l'est de la République démocratique du Congo. Il a réaffirmé son espoir au retour de la paix dans cette partie de la RDC en proie à l'insécurité entretenue par des groupes armés locaux et étrangers. Kinanga Moussachi, au regard du jubilé d'argent du sac du Mgr Sikuli le 2 août, vous avez souhaité, n'est-ce pas, analyser les points de vue des hommes de l'Église sur les bilans de la gouvernance de l'Est de la RDC. On vous écoute.
En fait, je dirais dans la même lignée que vous, la préoccupation des acteurs de la société civile et de participer à l'amélioration de la gouvernance. Alors, pour l'Église, puisqu'il faut comprendre que tout leadership a une triple responsabilité, répondre aux préoccupations des femmes, hommes et jeunes dans la société pour leur assurer une insertion sociale harmonieuse tant du point de vue moral, intellectuel, économique que matériel, mais aussi garantir à chacun un épanouissement humain dans un environnement politique, religieux qu'anime les acteurs politiques et sociaux sous-vivants, les colorations de leur appartenance et tendance dans le sérail du gouvernement. Ainsi, on note, suivant le protocole bien établi d'abord, institution, président de la République, qui est toujours invité à ces grands événements, bien qu'il est représenté. Et tenant compte de l'ordre hiérarchique et tout protocole observé, suivant les titres et qualités de chacun, qu'on poursuit les mêmes missions, à la différence qu'en plus de ce que je viens de mentionner, il y a aussi la dimension spirituelle qui entre dans le libre choix de l'homme selon la confession religieuse qu'il fréquente ou elle pratique. À l'ordination en fait de épiscopale de Mgr Sikouli qui avait été honoré le 2 août 1998 par la présence de Fiorenzo Cardinal Angelini d'heureuse mémoire, l'envoyé du pape pour présider la grandiose cérémonie, les autorités civiles, politiques, religieuses, militaires et autres qui s'étaient mobilisées spontanément comme le 11 août dernier à Butembo lors du jubilé d'argent d'exercice de la mission pastorale de l'évêque Sikouli Melchisedec, au cours de laquelle le cardinal Ambongo, venu spécialement de Kinshasa, a rappelé aux uns et aux autres la mission de l'Église aux côtés d'autres encadreurs de la population à divers titres. Je fais noter que le 2 août 1998 marque la date du déclenchement de la guerre de l'Est, laquelle depuis plus de 25 ans plonge cette partie du pays dans une insécurité permanente avec tuerie, assassinat et viol humain intolérable dont les images qu'on enregistre sont peu relayées par les médias internationaux. Et cela pose l'interrogation suivante. La persistance de la violence, puisque les auteurs restent pour la plupart impunis et certains notoirement identifiés prospèrent dans la société, eh bien, on se pose la question, que faire pour que dans la société on considère qu'on a réussi? C'est l'interrogation du cardinal Ambongo. Pour lui, il est fondé, je crois pour le cardinal, en s'adressant à l'Assemblée et à toute la République évidemment, de poser un diagnostic qui interpelle. Il dit ceci, je le cite, « Nous avons reculé. Je n'ai pas l'impression que les choses se sont sensiblement améliorées. Et de son point de vue, la situation ne peut pas continuer comme ça. »
Alors, comment vous expliquez le fait qu'on reconnaît que la situation ne s'est pas améliorée, mais dans les messages de Mgr Melchisedec Sikouli, on sent un certain optimisme quant à ce qui concerne le retour de la paix dans l'Est du pays. Et comment vous expliquez cet optimisme dans un contexte où la situation est loin de s'améliorer?
Un homme d'Église n'est qu'un messager de paix. Et je vous dis, ordonné le 2 août, c'était le seul message qui avait été en fait amplifié. Cet homme est confié à l'Église pour qu'il conduise des missions de paix. Il avait remplacé Mgr Katalikou, archevêque de Bukavu, qui était aussi à la cérémonie. Mais est-ce qu'il faut se décourager ou bien laisser tomber les bras? Je vous ai dit tout à l'heure que le 2 août se déclenchait le même jour la guerre à l'Est. Et cette guerre-là, il l'a subie avec les citoyens, avec optimisme en pensant que, non, avec la conviction que Dieu règle les problèmes. Je vais vous dire ici ce que le gouverneur militaire, le général Constant Ndima, a dit à propos de Mgr Sikouli, qu'il admirait le sens de résistance, de persévérance et de résistance de Mgr Sikouli en épinglant qu'il vit depuis son sacre des exercices de pouvoir actuels multiformes, notamment les pouvoirs qui se sont succédés sous le mandat de Sikouli. Depuis le 2 août, le RCD, le CNDP, les MV3, les ADEF et autres souffrent multiples formes. Mais le cardinal Ambongo a dit saluer et féliciter l'évêque Sikouli pour sa fidélité et surtout son combat aux côtés du peuple.
Merci.
Parce que c'est là la mission de chaque acteur. En tant que journaliste et vous aussi, quelle est votre part pour ne pas décourager les populations, mais pour leur donner de l'espoir? Parce que nous recherchons tous la paix. S'il y a les élections que nous visons, c'est toujours pour arriver à avoir une gouvernance pacifiée.
Donc il faut rester optimiste.
Mais nous devons œuvrer pour cela. Merci. Il ne faut pas seulement être optimiste.
Merci. Je rappelle que Ruben Lukumbuka ne prend toujours pas les téléphones, donc on n'arrive toujours pas à les récupérer. Madame Hortense Kavou Maliro, on va finir cette émission avec vous. Dans ces messages, on sent à la fois une certaine déception et un certain optimisme, n'est-ce pas, de la part de Mgr Tshikouli. Face à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC, c'est quoi, à votre avis, l'attitude qu'il faille adopter à ce moment-ci?
Oui, je pense que comme l'église est au milieu du village, c'est le seul mot qu'on peut donner le mot d'espoir à une personne qui est dans un shipping. Donc, c'est le seul message pour lui montrer que oui, la vie continue et on doit rester persévérant. Même s'il y a l'obscurité, la lumière finira par apparaître, par triompher. Donc, je pense que c'est l'attitude que nous devons prendre et que si nous voulons vraiment arriver à aider pour l'établissement de la paix, chacun à son niveau doit s'y impliquer. C'est-à-dire, moi j'ai toujours dit, quand tu vois l'image de Dieu dans l'autre, je ne vois pas comment tu peux lui faire du mal. Donc, c'est les messages que l'évêque voulait donner à la communauté. Voilà, ils vont la paix, c'est ça.
Merci, c'est la fin de cette émission. Oui, M. Kinanga, on a pris assez de temps.
Oui, j'étais très content du morceau que vous avez choisi, celui d'Alpha Blondie. Il a interpellé tout le monde. Et ce message-là date de plus de 2 décennies. Cela veut dire quoi? Pourquoi les gens sont fâchés? Il dit tout le monde est fâché, c'est parce qu'il y a des injustices. Et je l'ai suivi encore hier sur les réseaux sociaux, en s'adressant à la CDAO. Et dis-moi, vous avez fait de moi un ambassadeur de paix. Maintenant, les résolutions que vous êtes en train de prendre, c'est apparemment pour aller faire la guerre aux putschistes. Et dit, de grâce, je vous supplie qu'on n'en arrive pas là-bas. Donc, tout doit se faire dans le dialogue pour que tout le monde regarde dans la même direction.
Merci. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Hortense Kavou Maliro, Monsieur Kinanga Moussachi et Monsieur Ruben Lukumbuka. Merci aussi à Willem Lungamba qui était à la technique avec la participation d'Hervé Voka et de Def Sevita. Sous la supervision d'Alex Sessomier, Martin Sebujangwe et Étienne Rougerie. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Célie Azozo de Papa Noël Nedoulé, chanson sortie en 1985, et on se retrouve le samedi prochain.
Elo ponga na lingua pate, samo e samo. Yeah.